Macron est l'incarnation du Gechtel, je dirais, si on en terme hegelien. Mais la vraie révolte, elle vient plutôt du peuple, elle vient des gens qui souffrent, comme toujours.
Vous avez dit pendant la conférence aujourd'hui que la Russie a eu l'ère Agnès politique.
Oui.
Après l'époque de la chute de l'Union soviétique, quand il y avait Poutine qui est apparu. Si on regarde maintenant la France, on voit les situations un petit peu fatales, catastrophiques. Est-ce que vous croyez que le nouveau Eragnis arrive, soit va arriver avec la vague de ce qu'on appelle populisme dans la presse, mais ce qui est plutôt patriotisme, le désir de rester comme rester européenne?
Moi, je crois que les conditions d'un Eragnis sont en cours de se concrétiser dans les années qui viennent. On a déjà des signes de cela. D'abord, il y a une partie de la population qui maintenant est en révolte contre l'establishment, contre les dirigeants, contre l'oligarchie au pouvoir. Cette partie du peuple est de plus en plus nombreuse et surtout très jeune. Beaucoup s'abstiennent aux élections, mais d'autres votent évidemment pour le Front National, qui est un parti, comme on dit, populiste, enfin, qui se veut patriote, donc. Et puis il y a aussi d'autres patriotes qui sont à l'intérieur des partis classiques, bien sûr. Donc au total, le nombre des patriotes augmente, je pense. Et avec le fait que si vous regardez les anciens partis qui sont composés de personnes âgées et le nouveau Front National qui est composé de jeunes, normalement, avec l'évolution des générations, petit à petit, vous allez avoir les patriotes qui vont devenir majoritaires. Donc je crois vraiment qu'on va avoir un grand mouvement patriote qui va se développer dans les années qui viennent, comme on a eu le développement d'un grand mouvement socialiste qui s'est développé aussi dans les années 1930-1920, quand le Parti communiste est apparu, etc. Et personne ne pouvait rien contre... C'est un phénomène historique. C'était l'histoire de l'être, si on peut dire. Et là, on assiste au même phénomène aujourd'hui dans notre pays. Oui, et ça fait très peur, évidemment, à une partie des élites dirigeantes.
Vous préférez d'utiliser le terme patriotisme, mais pas le terme populisme ou antipopulisme?
Moi, le terme populisme, personnellement, ne me gêne pas. Il est utilisé de façon péjorative en France, notamment dans la bourgeoisie. Mais il ne me gêne pas, parce que ça veut dire que ce sont les gens qui sont partisans du peuple. Alors les gens qui sont partisans du peuple, moi, ça ne me gêne pas du tout, je trouve ça très bien. Mais peut-être que l'inconvénient du populisme, c'est qu'il n'a pas de contenu. Parce qu'il dit « il est pour le peuple », mais le peuple est pour quoi? On ne sait pas. Si on dit patriotisme, ça donne un contenu. À mon avis, c'est mieux. Le terme patriotisme est sans doute meilleur que le terme populiste.
Vous croyez que patriotisme, ça peut devenir une idéologie?
Ça peut en devenir une, mais au départ, ce n'est pas une idéologie. C'est comme je le disais dans ma conférence, un enfant qui dit « j'aime ma mère », si vous lui dites « t'es un petit idéologue », tout le monde va dire « vous n'êtes pas sérieux, ce n'est pas une idéologie ». L'amour de sa patrie, ce n'est pas une idéologie, c'est comme l'amour de ses parents. Ça peut s'allier à des vraies idéologies, disons, qui vont l'instrumentaliser, qui vont l'utiliser. Et ça s'est déjà vu dans l'histoire, effectivement. Mais le patriotisme pur, si je puis dire, il n'est pas une idéologie. Parce qu'il repose sur des sentiments, il ne repose pas sur un raisonnement intellectuel. Le libéralisme repose, par exemple, sur un raisonnement intellectuel. Tout doit être fait dans l'intérêt de l'individu étant vu de façon utilitariste. Le socialisme, c'est pareil, sauf que ce n'est pas les mêmes idées, bon. Mais c'est aussi une idée intellectuelle, une construction intellectuelle, élaborée d'ailleurs. Mais le patriotisme, au départ, non, c'est un sentiment qui vient du cœur des gens. C'est pour ça que je dis c'est vraiment une expression de l'être, authentique, si je puis dire. C'est pas une idée qui vient s'imposer à vous ou que vous avez construite artificiellement et qu'ensuite vous allez essayer de diffuser autour de vous. Donc c'est très différent d'une idéologie.
Mais quand même, le patriotisme peut être amené uniquement que dans la situation d'insécurité pour certains peuples ou quelque chose comme ça.
Oui.
Donc, c'est-à-dire que ce patriotisme est naturel comme la réaction.
Oui, c'est exact. Mais vous savez, l'histoire est tragique. Et l'histoire montre qu'il y a toujours des formes d'insécurité qui se développent à un moment ou à un autre de l'histoire. Un peuple n'a jamais... malheureusement, sauf pour des périodes très courtes, des périodes où il n'y a aucune forme d'insécurité qui le frappe. Alors ces insécurités, encore une fois, j'en vois trois grandes. Hein. C'est surtout le géographe français Guy Louis qui a mis ça en valeur. Il y a l'insécurité culturelle, qui est l'insécurité qui vient d'une invasion étrangère, de culture étrangère. Il y a l'insécurité physique, qui les deux peuvent se cumuler. L'insécurité physique est liée à la criminalité, à la délinquance, où on agresse les gens physiquement. Et puis l'insécurité sociale, c'est le fait de perdre son emploi, c'est le fait d'avoir son entreprise qui tombe en faillite. Voilà. Donc ça fait trois formes d'insécurité qui peuvent se cumuler parfois sur les mêmes hommes. Et là, les gens souffrent énormément. Et quand ils souffrent, ils découvrent... C'est le poète Hölderlin qui disait ça. Quand vous souffrez, c'est de l'endroit d'où vous souffrez que va apparaître, que vont apparaître les conditions de votre renaissance et que vous allez trouver de nouvelles idées pour pouvoir échapper à la souffrance et puis échapper à la destruction, finalement. Donc la souffrance crée son propre remède, son propre médicament, en quelque sorte. Et ce médicament, c'est le patriotisme, si on veut.
Et si nous regardons aujourd'hui les élections, nous voyons qu'il n'y a pas, dans le deuxième tour, peut-être il n'y aura pas de représentants de deux partis classiques. Et donc nous pourrons le voir selon les sondages de l'Opinion Nouvelle, par exemple, ou Ipsos, nous pouvons y voir les forces de Marine Le Pen, du Front National, et en même temps de forces du mouvement En Marche, de cet personnage Macron. Exactement. Est-ce que ça signifie qu'en fait la politique entre dans la nouvelle époque et il n'y a plus de la clivage gauche-droite qui existait depuis, comme vous avez dit,
1789.
Exactement. Et que c'est le fond et c'est la nouvelle époque, c'est le nouvel paradigme.
Ah, on arrive dans une nouvelle époque. Oui, ça, je crois que c'est tout à fait vrai. Et les sondages, d'ailleurs, rendent très mal compte de ce changement, de ces phénomènes. Les sondages, ces dernières années, se sont tout le temps trompés à beaucoup d'élections ou de référendums très importants. Par exemple, ils annonçaient que Mme Clinton gagnerait les élections. C'est pas vrai, c'est M. Trump qui a gagné. Ils annonçaient que Brexit était impossible, la sortie de l'Europe de l'Angleterre. Hein. Ben, c'est pareil, ça s'est fait quand même. Plus récemment et de façon moins importante, bien sûr. Le Parti des Républicains, c'est à la droite modérée, la droite libérale, a présenté des candidats et a fait voter les membres du parti, ainsi que tous ceux qui voulaient voter, pour choisir le candidat au présidentiel. Il y avait trois candidats importants, c'était M. Juppé, M. Fillon et M. Sarkozy. Voilà. Et alors, tous les sondages donnaient Juppé gagnant. Et dans les 15 derniers jours, il y a eu une remontée incroyable de Fillon à laquelle personne ne s'attendait. Et c'est lui qui finalement a gagné.
Bon. La Russie, on ne connaît pas beaucoup de choses d'informations sur Emmanuel Macron. Pourriez-vous nous expliquer ce phénomène, pas dans la manière de biographie, mais dans la manière philosophique? Qu'est-ce que c'est le phénomène Macron, si on ne peut pas...
Macron est l'incarnation du Gestell, je dirais, si on, en termes heideggeriens. C'est-à-dire qu'il incarne le système utilitariste qui est au pouvoir. C'est-à-dire qui écarte Dieu du système social au profit de l'ego, de l'individu. Et Macron est un homme qui déifie son propre ego. Alors ça, je peux vous dire que j'ai presque fait une étude scientifique sur le cas de Macron, parce qu'il a fait un livre qui s'appelle « Révolution ». Et dans ce livre, les 50 premières pages, par exemple, j'ai fait une analyse. Combien de fois il utilise les mots « je, moi, je, moi, je, moi » 252 fois. Ensuite, je me suis dit, est-ce qu'il utilise le mot « France » parce qu'après tout, c'est une élection présidentielle, donc il s'intéresse à la France. Une seule fois. C'est révélateur. Il ne l'a pas fait. Il ne s'en est pas rendu compte, évidemment, sinon il aurait essayé d'éviter cette erreur. Mais on voit que dans ce livre, il ne parle pratiquement pas de la France, il parle tout le temps de lui, de sa personne à lui. Et c'est même tellement caricatural qu'il a consacré un chapitre à sa femme, sans doute pour donner plus d'humanité à son livre. Et dans le chapitre sur sa femme, il parle plus de lui que de sa femme. Il ne peut pas s'en empêcher. Donc, si vous voulez, ce Gestell, si vous voulez, c'est le moi, quoi, l'ego, qui devient vraiment, qui remplace Dieu, au fond. Les valeurs morales sont remplacées par l'argent, c'est tout à fait Macron, c'est un banquier de chez Rothschild. C'est vraiment un homme de finance, hein, donc il incarne vraiment bien cette société où l'argent est la valeur suprême. Ensuite, la troisième valeur, c'est les masses qui remplacent les personnes. Les masses qui remplacent les personnes, c'est les médias, il utilise les médias, il a tous les médias de l'oligarchie qui sont en sa faveur et qui l'aident. Et puis enfin, c'est l'idolâtrie de la technique aussi. Mais Macron, ça va très bien avec l'idolâtrie de la technique, ça lui convient tout à fait, parce qu'il se veut très moderne, évidemment. Donc il a toutes les caractéristiques de ce que Heidegger appelait le Gestell, qui était donc pour lui l'utilitarisme au pouvoir, et pour lui, cet utilitarisme, c'était la décadence de la civilisation, quoi. Parce que si l'homme n'est plus qu'utilitaire, effectivement, il n'a plus le sens de l'honneur, il n'a plus de moralité, enfin, c'est une vraie catastrophe. Et la société risque même de s'autodétruire avec un système de genre. Et Macron, il incarne ça. Donc c'est un homme, en fait, qui est très souriant, mais qui peut paraître dangereux. qui peut paraître dangereux parce qu'il incarne tous les vices de la société moderne. Et donc s'il prend le pouvoir, ben, ça ne changera pas grand-chose parce qu'il représente déjà ce qui existe. Mais ça va peut-être s'aggraver, évidemment, ça va peut-être s'aggraver. Et on peut imaginer, par exemple, que Macron prenne le pouvoir. Au bout de 5 ans, les choses se sont encore aggravées. Par exemple, il est pour l'immigration sans limite. Il a félicité Mme Merkel d'inviter 1 million d'immigrés dans son pays. Bon, s'il fait la même chose qu'en France, alors là, on a, je crois, très probablement une explosion sociale. Et à ce moment-là, il serait renversé et on aurait quelqu'un d'autre, peut-être Marine Le Pen ou quelqu'un d'autre qui jouerait le même rôle, disons. Donc, voilà. Donc Macron, c'est, il dépasse l'opposition ancienne, gauche-droite. Il dit qu'il est à la fois à gauche, à la fois à droite, effectivement. Mais pour lui, ce qui est important, c'est uniquement les caprices individuels, donc qu'on masque sous le très beau message des droits de l'homme, bien sûr. Enfin, les droits de l'homme, c'est les caprices de l'individu, en fait. Hein. Il y a l'argent, bien sûr, les masses, la technique. Et il incarne tout cela. Donc il incarne une société moderne qui est profondément inhumaine, en définitive. Parce qu'elle élimine la composante la plus humaine de l'homme, c'est-à-dire son cœur. Son cœur qui est capable de faire des actes désintéressés. Alors ça, c'est ce qui est totalement éliminé, parce que ce qui compte, c'est le calcul. Alors le calcul est toujours intéressé. Et puis les instincts. Et les instincts sont intéressés aussi. Donc toute la partie, je dirais, effectivement, qui élève l'homme au-dessus des instincts et au-dessus du calcul, toute cette partie est éliminée. Et l'homme est réduit à une matière première, mais ça, c'est tout à fait ce qu'on constate. Alors je ne sais pas si c'est vrai dans toutes les langues, mais en français, on avait autrefois dans les entreprises ce qu'on appelait la direction du personnel. La direction qui s'occupait des cadres, des ouvriers, de leur promotion, de tout ça, de la gestion des hommes, quoi, finalement. Et cette direction du personnel, on a supprimé le mot. On a trouvé que le mot personnel ne convenait pas. Or, dans le mot personnel, il y avait le mot personne, ce qui est plutôt sympathique. Une personne, c'est vraiment un être humain avec toutes ses qualités. Et maintenant, on appelle ça la direction des ressources humaines. Comme on pourrait dire la direction des ressources énergétiques, la direction des... Oui, c'est épouvantable. Enfin, c'est vraiment la déshumanisation. C'est l'homme considéré comme une matière première, comme des boulets de charbon, si vous voulez, dans une usine sidérurgique. Quoi. Bon. Donc l'homme est une matière première. Et pour qu'il soit une bonne matière première, il faut qu'on puisse le déplacer partout sur la Terre. Et donc il ne faut pas qu'il y ait de nation, il ne faut pas qu'il y ait de frontières, évidemment. Il faut qu'il puisse se déplacer. Il ne faut pas qu'il ait de racines non plus. Parce que si les hommes commencent à avoir des racines et des idéaux, ça gêne le bon fonctionnement de l'économie mondiale, évidemment. Ça crée des limites, ça crée des frontières, et on ne veut pas de ça. Donc c'est une déshumanisation de la société qui est organisée par cette société, je dirais, caricaturalement ultra-libérale.
Donc, en revenant vers Macron, ce phénomène qui est un représentant de Gestalt, est-ce que nous pouvons dire que c'est un sort, si nous prenons la terminologie de Christopher Lasch, c'est un sort de la révolte d'élite?
Oui,
c'est ça. Contre le peuple.
C'est une exacerbation des tendances de l'élite qui existe déjà. Mais la vraie révolte, elle vient plutôt du peuple, elle vient des gens qui souffrent, comme toujours. Et ce sont les gens qui souffrent de l'immigration, qui souffrent du crime et qui souffrent aussi des difficultés sociales. Ce sont ces gens-là qui induisent un nouveau comportement politique et qui soutiennent un nouveau parti politique. Le Front National est un parti très récent, qui vient de la souffrance des gens. Bon, les partis traditionnels, c'est des partis qui ont été créés au XIXe siècle sur d'autres causes, d'autres raisons. Donc ils ne correspondent plus à ces problèmes. Ils pourraient s'adapter, mais visiblement, ils ont du mal. Ils n'arrivent pas à s'adapter.
Nous savons que dans la tradition philosophique française, il y a une grande tendance de comprendre les sondages et tout ça comme la construction de la réalité.
Oui.
Donc comment les sondages fonctionnent et est-ce que cet phénomène que Macron est en tête va influencer les gens voter Macron ou peut-être ils seront influencés de voter les autres candidats?
Moi, je crois que les sondages n'influencent pas tellement le comportement des électeurs. Ils influencent un peu à la marge, mais pas fondamentalement. Parce que si les sondages vraiment étaient tout puissants, il n'y aurait même pas de Front National du tout en France en général, ou du moins il serait très petit, donc ce n'est pas le cas. Donc on voit bien que quand il y a eu le référendum sur le traité européen, les sondages donnaient le traité européen vainqueur. Les gens votaient oui. Et les journalistes votaient oui, et dans les sondages, c'était le oui qui devait gagner. M. Chirac, qui avait créé ce référendum, pensait qu'il allait réussir. Eh bien non, le peuple a voté non, il a fait le contraire. Alors je crois qu'il faut se méfier surtout de l'interprétation des sondages. Bon, les chiffres sont ce qu'ils sont, mais ensuite il faut les interpréter. Quand vous êtes centriste, ni de droite ni de gauche, ce qui est le cas de M. Macron, En général, vous avez toujours des très bons sondages, parce que beaucoup de gens qui sont un peu à gauche, vous leur dites « Est-ce que vous aimez M. Macron ?» Ils disent « Oui, j'ai rien contre, oui, oui. » Les gens qui sont un peu à droite, pas très à droite, mais un peu à droite, ils vont dire « Oui, moi aussi, je suis pour M. Macron, vous faites le total de tout ça, ça vous fait un très bon score. » On a des exemples. On a eu un exemple typique en France, on a eu plein d'exemples d'ailleurs, mais notamment l'exemple d'une femme qui était très respectée par l'intelligentsia, qui s'appelait Mme Simone Veil, qui est la femme qui a été... Elle a été prisonnière dans un camp de concentration nazi. C'était une juive qui a été donc enfermée dans un camp de concentration. Ensuite, c'était une femme intellectuelle. Et elle a surtout fait la loi qui porte son nom et qui a permis l'avortement en France. Donc toute la gauche était évidemment pour elle. Mais en même temps, elle n'était pas de gauche. Elle n'était pas au Parti socialiste. Elle était plutôt dans le Parti libéral. Et donc elle avait des amis de tous les côtés. Et dans les sondages, elle faisait 70% des voix. Elle s'est jamais présentée au présidentiel, mais elle s'est présentée aux élections européennes. Et Chirac l'avait choisie comme tête de liste pour son parti, en se disant « on va faire un score formidable avec elle, puisque 70% des Français l'aiment bien ». Elle a fait 15%. Elle s'est complètement effondrée. Pourquoi ? Parce que les gens de droite se sont dit « elle est trop à gauche », et les gens de gauche se sont dit « elle est trop à droite ». Et c'est ce que je crains pour Macron. Aujourd'hui, déjà maintenant, vous avez une partie de la gauche, et même de la gauche pro-Macron, qui dit qu'il est, il est pas clair, on ne sait pas ce qu'il est... Et M. Attali, par exemple, qui l'a critiqué très très vertement, alors que c'était un de ses soutiens au départ.
Est-ce que vous croyez qu'ici Macron va gagner, le peuple va révolter contre lui, donc faire un sort de, je ne sais pas, révolution ?
Je ne sais pas ce qui va se passer. Si Macron est élu, d'abord, il n'a pas de majorité. Donc il faut dissoudre l'Assemblée nationale et voter pour élire un nouveau Parlement. Et il faut qu'il y ait une majorité pour le président de la République. Alors, c'est possible qu'il trouve une majorité, mais ce n'est pas tout à fait certain. S'il a une majorité, il sera un vrai président. S'il n'a pas de majorité, on va tomber dans ce cas de, typiquement français qu'on appelle la cohabitation. C'est-à-dire que, par exemple, il gouvernera, mais il n'aura pas de majorité au Parlement. Et comme il n'a pas de majorité au Parlement, il sera obligé de prendre un Premier ministre qui sera son ennemi. Et c'est le Premier ministre qui va gouverner, ça ne sera pas le président. C'est déjà arrivé, hein. Mitterrand était président de la République, il avait comme Premier ministre Jacques Chirac. Et en fait, on faisait la politique du Premier ministre, la politique de Jacques Chirac. Mitterrand restait président, donc il était content parce qu'il restait président, mais il ne dirigeait plus rien. C'est ce qu'on appelle la cohabitation. C'est provoqué par nos élections, parce qu'il y a des élections législatives, des élections présidentielles, elles n'ont pas lieu le même jour, et donc elles peuvent donner des résultats opposés. Et à ce moment-là, on a un président qui est tout seul, et on a une majorité au Parlement qui est différente et qui fait une autre politique. Et à ce moment-là, Macron, bah, il serait président tout seul, dans cette hypothèse-là. Donc c'est complexe. On a toujours eu des institutions complexes en France.
Et par exemple, qui va devenir le Premier ministre ? Ceux qui vont avoir la majorité dans le Parlement ?
C'est ça.
Donc c'est possible que Marine Le Pen va devenir...
À la limite, ce serait possible. Mais il faut que le président de la République nomme le Premier ministre. Il peut refuser de nommer Marine Le Pen. Mais s'il ne nomme pas Marine Le Pen et si elle a une majorité au Parlement,
il va nommer
quelqu'un d'autre qui sera immédiatement chassé par le Parlement. Parce que le Parlement peut chasser un Premier ministre. Ça s'appelle une motion de censure.
Oui.
Il vote contre le Premier ministre, mais le Premier ministre est obligé de s'en aller. Et alors, à la limite, on peut imaginer M. Macron disant « Je suis tellement contre Marine Le Pen que je démissionne ». Il a le droit. Ça peut arriver. Et à ce moment-là, on a de nouveau une élection présidentielle. Mais c'est aussi un cas de figure possible.
Mais par exemple, ça doit être un personnage du Front National, si Front va prendre la majorité dans les élections parlementaires. Le Premier ministre, ça sera élu ?
Pas forcément. Hein. Il faut qu'il y ait une majorité en faveur du Front National, effectivement. Mais on peut imaginer que le Front National ait une majorité aux élections législatives, aux élections parlementaires. C'est pas impossible. Alors il y a une possibilité à ce moment-là pour le président, si le président n'est pas du Front National, c'est qu'il choisisse une personnalité que le Front National accepte, mais qui ne serait pas Marine Le Pen. Et voilà,
un
compromis. Voilà. Ça peut aussi se faire. Ça. Macron est l'incarnation du Gestell, je dirais, si on en termes de Heidegger. Mais la vraie révolte, elle vient plutôt du peuple, elle vient des gens qui souffrent, comme toujours.